Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va?
Ouais.
Entrez, bonsoir madame.
Bonsoir.
Allez-y.
Élodie.
Enchantée.
Il fallait pas. On fait ça avec tellement de plaisir.
Ouais, oui, non, mais nous aussi. Mais bon, c'est,
ouais. Merci beaucoup.
On est juste un petit peu en retard.
Moi, je veux bien une tisane.
Tisane,
ouais.
Okay.
S'il vous plaît.
Et toi?
Et moi, un Perrier, alors, s'il vous plaît.
Un Perrier?
Ouais.
Moi, c'est un Perrier.
Ils entrent dans l'église au bras de leurs parents, les cloches sonnent, les grains de riz s'accumulent sur les marches. Ouais. Autour de 70 000 couples choisissent chaque année en France de s'unir à l'église catholique, sans pour autant avoir toujours des souvenirs très vifs ni de leur cours de catéchisme, ni de la dernière fois où ils sont allés à la messe. Alors l'église catholique oblige tous ceux qui veulent se marier en son sein à suivre une préparation spécifique. Les mois qui précèdent le grand jour, les futurs époux rencontrent un prêtre, mais aussi des couples déjà mariés qui viennent leur transmettre leur expérience de l'amour longue durée.
C'est un verre d'eau.
Devant le nombre croissant de divorces en France, l'Église catholique a décidé de renforcer un peu plus chaque année cette préparation, et notamment en Ille-et-Vilaine, autour de Rennes, une terre toujours bercée par le catholicisme, où nous avons décidé de nous rendre. À quoi ressemble cette préparation? Quelles questions se posent les jeunes couples avant de franchir le cap? Et quelles sont les réponses apportées? Mariage à l'Église, se dire oui, c'est toute une préparation. Un documentaire d'Élodie Font et François Test pour Sur les Docs.
Par contre, on va avoir un peu besoin de place après,
ouais.
Pour les cartes.
Oui. Moi, je vais aux cartes ce soir.
C'est un tour de magie, hein.
Non. Non, parce qu'il y a... on procède souvent de la manière suivante, c'est suivant votre choix. On a un jeu de cartes, et sur ce jeu de cartes, il y a des questions sur les différents piliers du mariage.
Oui, d'accord.
Donc, et ça permet, donc, le principe du jeu, on prend, je crois, c'est 5 cartes hein, de mémoire.
Oui.
Ou le...
On en garde 3.
Et après, il y a des questions qui sont posées, et donc vous apportez une réponse.
D'accord,
la
ça
réponse,
permet d'échanger.
D'échanger sur les 4 piliers du mariage. C'est un peu comme des questions de Trivial Pursuit, quoi. C'est pas, non, pas tout à fait. Non, il n'y a pas de choix de réponse. C'est vous qui les apportez. Parce que la réunion, c'est ce soir, ça a tourné,
ouais.
Sur ces réflexions de 4 piliers, et puis ça permet après, par la suite, de discuter comment vous voyez un petit peu votre mariage par la suite.
D'accord.
Hein? Alors, nous, on n'est pas là pour juger, hein, je vous le dis tout de suite. Nous, on apporte notre expérience entre couples mariés depuis 1997, je crois que c'est ça.
Donc, Mathieu Babot, donc, j'ai 30 ans. J'habite à Rennes, à côté de Rennes. Et donc, je suis en couple avec Marianne depuis bientôt 5 ans. Et donc, on a décidé de se marier il y a bientôt 2 ans. Et donc c'est prévu pour cet été, donc 2015. Et voilà. Et donc on a décidé de faire une préparation au mariage, et donc avec un couple encadrant, et puis donc pour se marier à l'église, voilà.
Marianne, vous êtes la future femme de Mathieu. Vous allez vous marier dans quelques mois maintenant. Vous êtes en train de suivre cette préparation au mariage. Est-ce que pour vous le mariage, c'était un rêve de petite fille?
Oui, effectivement, c'est un jour que j'imagine depuis longtemps. Là, je voulais enfiler la robe blanche. C'est un moment de partage, de fête avec la famille, les amis. Oui, j'avais imaginé des chansons, voilà.
C'était complètement inenvisageable de se marier seulement civilement.
En fait, je suis croyant, je suis pratiquant. C'est-à-dire que j'ai plus été du tout pratiquant durant toutes mes années d'études, voilà. Et en fait, c'est depuis que j'ai rencontré Marianne, où comme on a un petit peu le même vécu spirituel, on s'y est remis un petit peu tous les deux en même temps, quoi.
Et vous saviez qu'il y avait une préparation qui pouvait durer des mois avant ?
Ça non. Non, ça j'ai découvert ça il y a quelque temps avec un couple d'amis qui se mariaient et qui m'ont raconté. Mais je me doutais bien qu'il y avait une rencontre avec le prêtre, mais je pensais pas que c'était aussi aussi approfondi.
On est quasiment, dans nos amis, on est vraiment pas les seuls, mais on est vraiment en ultra minorité à vouloir nous marier donc à l'église. Hein. Et on est entouré de gens qui ne sont pas forcément croyants ou pas forcément pratiquants et qui n'ont pas ces envies-là. Mais ils comprennent. C'est pas pour autant qu'on arrive à les convertir, mais ils comprennent.
Ça veut dire qu'ils seront là, a priori, à l'église le jour du mariage.
Ouais, on espère, ouais. On espère.
Agnès Valk, vous êtes historienne, vous avez fait une thèse il y a quelques années maintenant sur la préparation au mariage catholique. Déjà, première question, ça existe depuis combien de temps cette préparation-là ?
Alors, on peut dire que ça existe depuis à la fois très longtemps et pas très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des préparations au mariage qui existent au XVIIe siècle, mais c'est par le biais de livres. Et là, vraiment, la préparation au mariage, ça date de la Seconde Guerre mondiale. C'est par exemple le mouvement des équipes Notre-Dame, qui est initié par des laïcs et par un prêtre qui est Henri Caffarel et qui... exactement en 1939, commence à fonder des équipes de foyers. Ça, le mouvement perdure, puisque après-guerre, les foyers qui s'étaient un peu disloqués pendant la Seconde Guerre mondiale se retrouvent. Et c'est maintenant un mouvement international qui comporte des milliers de foyers dans le monde entier. Et le père Caffarel, dès 1943, a l'idée de former des fiancés. Donc il propose des conférences pour expliquer ce qu'est le mariage. En 52, il propose même des retraites pour les fiancés. Jusque dans les années 90-2000, il semble qu'il forme au mariage à peu près 10 à 15% des mariés catholiques, ce qui est très très peu. Mais à partir, disons, il y a une dizaine d'années, voire même moins, c'est presque obligatoire. Le Concile Vatican II avait déjà insisté sur une préparation au mariage. Et puis après, toutes les exhortations des papes, par exemple Familiaris Consortio, insistent sur le fait qu'il faut que les époux, les futurs époux, s'engagent en toute connaissance de cause.
Je m'appelle le père Nicolas Guilloux. Je suis né en 1968, donc j'ai 47 ans. Nous sommes ici à la maison de la communication du diocèse de Rennes. C'est une maison qui a plus de 25 ans.
Alors, sur la préparation au mariage, à quoi elle ressemble, cette préparation ?
Alors, cette préparation, elle peut être très diverse en fonction des lieux, en fonction des paroisses, en fonction des secteurs et même en fonction des diocèses. Globalement, il y a... de plus en plus de couples mariés, déjà depuis quelques années, qui, on présente ça comme ça, se lancent dans la préparation au mariage. Ces couples mariés vont recevoir ces couples qui se préparent au mariage pour un certain nombre d'échanges, questions-réponses, partager un repas, partager un temps de convivialité. Parce que, évidemment, c'est très important, parce que nous, les prêtres, on n'est pas mariés. J'entends plein de choses sur la vie conjugale, sur la vie familiale, mais on le vit pas de l'intérieur. Il y a quand même plein de choses qu'on ne sait pas. Et du coup, c'est une bonne complémentarité pour préparer ce couple qui va demander le sacrement du mariage.
Il y a quatre piliers dans le mariage catholique. Quels sont-ils ?
Alors, il y a quatre piliers. C'est la fidélité, l'indissolubilité, c'est-à-dire pour toujours, la fécondité et la liberté. Les quatre piliers vont être abordés, d'autant que chaque couple qui se prépare au mariage va devoir écrire une lettre d'intention, ce qu'ils veulent vivre avec l'autre, en tenant compte des quatre piliers. Et donc, pour le dossier qu'on doit réaliser, en droit canonique pour l'Église, ces quatre piliers doivent apparaître, c'est-à-dire que chaque membre du couple doit être bien d'accord avec ces quatre piliers, voilà, sans exception. L'objectif de ce qu'on veut leur faire vivre, c'est qu'ils préparent le mieux possible un socle solide pour vivre toute leur vie tous les deux.
Quand on prépare quelqu'un au mariage catholique, c'est un couple qui prépare un autre couple. C'est-à-dire que l'intervention du prêtre existe, mais c'est quelques entretiens qui sont d'ailleurs des entretiens plutôt... alors le prêtre valide la cérémonie avec le couple, donc explique comment ça va se passer, et puis valide aussi un peu l'engagement. C'est-à-dire que le prêtre a quand même une vraie responsabilité pour savoir si l'engagement des époux va être un engagement sérieux ou pas. Ça, c'est extrêmement important. Mais c'est vraiment des fiancés qui, en groupe, vont réfléchir à ce qu'est le mariage, hein, sous la houlette d'un couple qui a été formé pour ça, qui est déjà marié et qui anime ces sessions. Et il y a une, mettons, il y a à peu près un an de préparation au mariage, une dizaine de sessions. Enfin, c'est presque de l'entraide.
Sylvie et Bertrand, couple accompagnateur.
Il y a une quinzaine d'années, nous y avions pensé. C'était un sujet qui nous intéressait. On considérait que nous avions quelque part un rôle à jouer pour passer le flambeau, pour témoigner auprès des jeunes. Et puis voilà, les enfants, le quotidien, le temps à passer, on a mis un petit peu ça de côté. Il se trouve qu'il y a quelques années, nous avons changé de paroisse. Et dans la nouvelle paroisse où nous sommes arrivés, qui est la paroisse de Rennes-Cathédrale, on nous a demandé de nous engager dans cette préparation. Et comme nous avions déjà réfléchi à la question, nous avons dit oui assez rapidement. Alors ça fait 4 ans que nous sommes couple accompagnateur. Depuis 4 ans, nous avons préparé une quinzaine de couples à peu près. Et nous sommes surpris très souvent par le niveau de réflexion, par la volonté de réussir cet engagement. Donc notre rôle, c'est de les accompagner sur un cheminement. C'est ça aussi notre rôle. Nous sommes des médiateurs.
Oui. On peut aborder assez la question des enfants, la question de l'argent, par exemple. Est-ce que l'argent pose un problème dans le couple, par exemple? Est-ce que leur projet professionnel, par exemple, ne risque pas de causer des discordances dans le couple? Enfin, voilà quelques exemples de questions qu'on peut aborder.
Est-ce que vous voulez, on part sur les cartes et puis après, si on veut partir sur autre chose, vous avez la liberté totale. Hein. Si vous voulez préférer aller plus en approfondir les piliers, faut pas hésiter. Hein.
Donc vous pouvez en prendre, mettons, 5 et puis en garder 3.
Il y a un code couleur, non? Il est orange, c'est pour
Non, c'est pas. Non, je
voilà. Alors on joue avec vous, hein.
D'accord. Oui. Voilà. On vous
laisse pas. On donne notre expérience aussi.
Marianne et Mathieu, vous avez accepté qu'on vous suive dans une de ces réunions de préparation au mariage pour que l'on puisse entendre à quoi cela ressemble. Comment vous l'avez choisi, vous, Marianne, ce couple qui vous amène jusqu'au mariage?
Alors, à vrai dire, on ne l'a pas choisi. En fait, on a une rencontre initiale avec le prêtre qui nous fait parler, qui apprend à nous connaître et qui en tire quelques traits de caractère et comment on mène notre vie actuellement, et en fait qui nous rapproche d'un couple qui peut nous correspondre en termes de caractère, en fait.
Qui veut... Non, ça...
La plus jeune.
Une simple, parce que c'est un peu ce qui m'a frappée ces derniers temps, c'est la phrase, c'est « Devant le nombre de divorces, je suis parfois prise d'inquiétude. » Parce que moi, c'est au travail, du coup, donc je commence à le dire qu'on va se marier, etc. Et c'est impressionnant le nombre de gens qui me disent « Oh là là, mais quelle erreur tu fais !» Non, mais il y a un mariage sur deux qui finit en divorce. Surtout dans le travail dans lequel j'exerce, il y a une force de vente, donc des représentants, et je crois qu'ils sont tous divorcés. Et du coup, je suis un peu perdue quand ils me disent ça, parce que je suis...
Tu t'es pas posé la question avant, quoi.
Qu'après, on sait qu'il y a des divorces, mais...
Naturellement, les gens, quand on dit « on va se marier », le prennent un petit peu... Enfin, le font passer à la rigolade en disant « bon, soit bon courage, soit... Ouais. » Voilà, et en général, disent « voilà, tu sais pas dans quoi tu t'engages, mais c'est plus... » Bon, c'est plus sur le ton de l'humour. Mais alors que voilà, c'est...
Ça devrait te dire, bah oui, bah tout, content pour vous, quoi, de avoir une réflexion autre que dire, le divorce, il y a un divorce sur deux. Il faudrait presque leur dire, on ne sera pas parmi les divorcés.
Moi, c'est ce que je leur dis, c'est-à-dire qu'on a une chance sur deux de rester en couple.
Et alors, vous arrivez à argumenter ou à défendre un peu votre choix ou ça en reste là parce que c'est des collègues de travail et donc ça peut pas forcément s'approfondir, ça dépend.
D'argumenter, c'est un peu compliqué. Après, moi, je leur dis qu'on est confiant dans notre couple, que c'est vraiment des valeurs auxquelles on adhère, etc. Et on se verrait pas faire autrement, mais...
Et puis que c'est, que c'est un choix qu'on a fait aussi.
Ouais. Ça rejoint... Enfin, c'est le pilier de la liberté, en fait.
C'est ça, et qui
est fait vraiment votre liberté d'engagement et qui n'est pas fait pour faire plaisir à la famille.
Et c'est pas fait pour plaire aux autres.
Et voilà, c'est vraiment un choix, quoi.
C'est peut-être face à la société aujourd'hui où il y a finalement peu d'engagement de prix et là, d'un coup, on se dit, disons, ils vont prendre un...
Mais on se sent en fait un peu différent de l'autre.
Et puis je trouve ça moche comme réflexion, de dégrader le mariage comme ça. Enfin, bon.
Et encore, vous parlez de mariage, ils ne savent pas si vous vous mariez religieusement ou pas. Ils se disent, ils se marient, point. Donc c'est juste cet engagement-là qui leur fait peur déjà.
Moi, je crois que s'il y a des obstacles, justement, à deux, on est plus fort que tout seul pour les surmonter. Et c'est là l'engagement du mariage, justement, ça renforce pour affronter un peu la vie ensemble. On n'est pas seul.
Voilà.
On partage. On est à deux pour vivre jusqu'au bout. Et c'est là où j'en discutais justement avec des collègues de travail, parmi mes collègues. Ils sont à peu près tous divorcés. Je dis, pourquoi vous êtes divorcé ? Vous n'avez pas surmonté un obstacle ou moi je leur dis, mon mariage, heureusement que je suis marié parce que tout seul, ça serait la panique. C'est vrai. On a besoin le soir de partager des choses avec quelqu'un d'autre. Parce que si on n'a que les collègues de travail, la vie n'est pas drôle. Moi je m'en rends compte plus
facilement. Et alors encore plus le mariage chrétien, je pense que c'est un peu la. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on fait cette préparation aussi, c'est parce qu'on a vu beaucoup de divorces autour de nous et qu'on pense que on a quelques clés en se mariant à l'église, parce que si vous basez sur ces piliers là toute votre vie, logiquement ça devrait passer, quoi. Je pense que si on se repose des questions du début, pourquoi on s'est marié, pourquoi je l'aime, pourquoi on a décidé de faire notre vie tous les deux, les obstacles seront surmontés, même s'il y en aura, effectivement.
Il faut prendre conscience qu'il va y en avoir, mais pas en avoir peur.
Parce que du coup, vous pensez que les divorces actuellement, ce sont des couples qui ont eu des obstacles et qui en ont peur et qui n'ont pas cherché les clés pour les surmonter.
Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y avait véritablement un engagement dès le départ ?
Comment était l'engagement de départ, ça aussi.
C'est là où, tout à l'heure, vous avez parlé tous les deux de la lettre d'intention. Vous avez mis pourquoi vous voulez vous marier, pourquoi, comment vous voyez votre vie à deux. C'est pour ça que la lettre d'intention est importante. Ça marque l'engagement. Et les piliers sont là pour justement faire réfléchir à ça, quoi.
Dans le contenu, moi, il me semble qu'il y a vraiment deux choses qui sont extrêmement nouvelles et qui datent d'il y a très peu de temps, c'est une dizaine d'années, voire moins. La première chose, c'est que la préparation au mariage devient une sorte de catéchèse bis. Beaucoup de couples qui passent à l'église, en fait, se sont détachés de la religion ou ont une vague idée du catéchisme que peut-être leurs parents leur ont fait suivre quand ils étaient plus petits, et finalement ne connaissent même plus tellement la théologie et ne connaissent même plus tellement l'enseignement chrétien. Donc il y a vraiment une part de catéchèse dans cette préparation au mariage, parce qu'on veut quand même vérifier que les gens qui s'engagent ont une démarche de foi, parce que le mariage chrétien est un sacrement. Donc il faut croire dans les vérités de l'Église catholique pour que ce sacrement agisse. Alors la seconde chose, me semble-t-il, c'est qu'on insiste de plus en plus sur deux aspects très importants, qui est la fidélité dans le mariage et l'indissolubilité du mariage. Il y a encore une dizaine d'années, la question centrale était la question de la sexualité et de la limitation des naissances. Comment est-ce qu'on était un père et une mère responsables, et tout tournait autour des problèmes de sexualité dans le couple et d'adaptation de la vie sexuelle réelle aux exigences de l'Église. Et là, depuis 4-5 ans, on a complètement... ça n'est plus un objet de débat. Je pense que de toute façon, l'affaire est pliée. Les catholiques pratiquants et moins pratiquants font comme ils veulent. Et on est passé à un autre type de problématique, qui est la fidélité et la fidélité dans la durée. Parce que c'est ça qui, maintenant, est un vrai problème pour les couples. Faire durer le mariage et être fidèle jusqu'au bout. Ça, c'est la grande question. Et je crois que là, vraiment, la préparation est très centrée là-dessus.
Moi, je m'appelle Angélique, j'ai 22 ans, je suis originaire de Valence, dans la Drôme, et quoi dire d'autre, voilà.
Et le mariage, c'est pour quand ?
Le 11 juillet 2015.
Le 11 juillet 2015. Alors, avec le mari ?
Avec Jimmy, du coup, 27 ans.
C'est
27 ans, originaire de Rennes, du coup, et mariage... 11 juillet 2015.
Et alors la rencontre, c'était quand ?
C'était il y a bientôt 4 ans, donc un 12 juin. Et on s'est rencontrés par le biais d'amis communs, en faisant une sortie le soir, en allant en boîte. Donc nous, on s'est pas rencontrés dans la boîte, on s'est rencontrés avant la boîte.
C'est important.
Voilà.
La petite anecdote.
Donc bientôt 4 ans.
Et alors la demande en mariage, c'était quand ?
À la date.
Du tout.
Ouais, c'était un... On fait tout le 12, en fait. C'était un 12 octobre 2013. Et du coup, voilà, il s'est mis à genoux avec le bouquet de roses, la bague, les fleurs partout dans l'appartement, les pétales, les bougies. Et voilà. On s'était déjà fiancés un an avant. Moi, je voulais prendre mon temps, puis finalement, c'est en fait... On n'avait pas besoin de prendre le temps plus que ça, au final, parce qu'on se dit toujours on est trop jeune, il faut prendre le temps. Et au final, c'est du temps perdu à être ensemble. Donc du coup, voilà, j'ai dit oui. Moi, je voyais plutôt ça comme le côté romantique. On se prend l'un pour l'autre pour l'éternité, comme on dit. Pour moi, c'était très important, en fait, de toute cette symbolique qu'il y a autour de la religion, de devenir sa femme. Faire des projets ensemble... avoir des enfants, construire une maison.
Ah, c'était la concrétisation un petit peu de tout ça de...
Enfin, c'est un peu un rêve de petite fille, en fait. C'est un jour que je pense la plupart attend. Et du coup, c'est la robe, c'est la magie, c'est les fleurs. Et puis, en fait, on a reçu notre contrat de mariage il y a une semaine. Et là, j'ai vu « future épouse ». Et là, je me suis dit « ah ouais, quand même ».
Et le mariage catholique ? Ça a été une évidence tout de suite de se marier à l'église ou ça a quand même suscité quelques conversations entre vous au début ?
C'était une évidence ? Enfin, tu connaissais pas, finalement ?
Non, je connaissais pas, j'ai pas été élevé dans la religion, donc c'est vrai que... Après, par respect pour toi, par respect pour ça, et puis le mariage, je sais pas, la symbolique aussi du mariage, c'est... Ça peut être bête à dire, mais c'était l'église, c'était la mairie et l'église. Donc,
de voir le papa m'emmener, de voir ta maman t'emmener à l'hôtel.
Il y avait tout cette symbolique-là aussi qui s'appliquait au mariage. Donc,
Vous êtes baptisé, Jimmy ?
Non, du tout.
Ça veut dire qu'on peut se préparer et se marier à l'église sans être baptisé?
Bah, je l'ai appris en même temps, oui. Et on peut se marier en demandant une dispense...
De disparité de culte. Du coup, c'est l'évêque, je crois, qui donne son accord, ou pas, dans certains cas, sur le fait que je puisse me marier avec un non-baptisé.
Et comment ça se passe? J'en ai aucune idée. Comment l'évêque décide si oui ou non il lui donne son accord?
On a une lettre d'intention, du coup.
Ouais, on a une lettre d'intention à remplir. Enfin, à écrire.
Ouais.
Et du coup, vas-y. Et toi, t'as une.
Moi, j'ai
une. Il y a une lettre en plus à faire, comme quoi ils s'engagent à élever nos futurs enfants dans la foi chrétienne, à ne pas.
À ne pas m'opposer à la religion évangélique,
à vivre dans le respect de cette religion-là.
Et alors, la préparation, cette fameuse préparation au mariage, elle a commencé quand et elle a consisté en quoi, là, pour vous, depuis quelques mois?
C'était le 26 janvier où on a eu une préparation avec tous les couples en fait qui se marient dans l'année dans le diocèse de Rennes, non, Côte-Brue même je crois. Et du coup là ça a été sur une journée entière. On a commencé par une messe. On a reçu à la fin de la messe une belle sculpture en fait qui a été faite par le foyer des jeunes handicapés de Brue. Donc c'était super joli, c'était un homme et une femme entrelacés, voilà, c'était super joli. Ensuite on a fait un repas, et puis après on a parlé pendant toute l'après-midi en fait sur la préparation mariage, comment ça allait se dérouler, les textes qu'on pourrait choisir, les chansons, on a même regardé avec le prêtre des extraits de « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Donc c'était assez sympa en fait, du coup c'était pas très, comment dire, conventionnel en fait, on n'a pas parlé que de la foi chrétienne, donc en fait les gens qui n'étaient pas baptisés ou qui étaient moins croyants, on était tous dans le même bateau et puis il n'y avait pas de différence quoi, donc c'est ça qui était super sympa, et le fait qu'on puisse parler avec d'autres couples aussi, voir où chacun en était, c'était une super journée.
Et vous disiez, Jimmy, que vous appréhendiez, pourquoi vous aviez peur qu'on comprenne pas votre démarche d'être non-croyant et de se marier à l'église?
Non, pas dans cette optique-là. J'avais plus peur d'être perdu dans une masse de chrétiens, si je peux dire ça, et de pas réussir à faire ma place et à concrètement être perdu. En fait, non, on a été accompagnés dès le début, bien suivis. Et
puis on était tous les deux. Donc...
Et puis on est restés...
C'est la traduction. Non.
Alors attends, je vais prendre la clé. Alors s'engager, c'est aussi dire une parole aux autres. Qu'en penses-tu? Vous en avez déjà parlé autour de vous là, comme
ouais,
ouais.
Bah beaucoup même, plus que je ne pensais en plus. Enfin.
Mais on en parle beaucoup parce que on est à une période aussi où nos amis aussi se marient. Mmh. Alors pas forcément à l'église, mais
et peu à l'église en plus.
Peu à l'église, plus civilement.
Et surtout quand on leur fait prendre conscience que nous on se prépare véritablement au mariage, et finalement ceux qui se marient à la mairie, il n'y a pas de préparation, et c'est là où on se rend compte qu'il y a un décalage énorme en fait. Ouais. Et du coup, eux aussi, ça les intrigue finalement qu'on fasse tout ça, qu'on.
Voilà, ça, c'est la préparation aussi qui
est possession. Qu'on passe autant de temps à parler du couple, des valeurs, etc.
Moi, je défends assez cette idée d'une préparation de mariage civil aussi, par rapport à l'engagement. Parce que rien que les articles du code civil qui sont lus le jour du mariage, ils les ont jamais lus avant, ils vont être lus que ce jour-là, ils les auront largement oubliés parce qu'ils seront concentrés sur autre chose, et c'est pas mince quoi. Et donc
et ça c'est important quoi.
Nicolas Guillou, est-ce qu'il y a des moments où la préparation au mariage ne fonctionne pas?
On peut sentir parfois des choses qui se passent dans le couple, où des fois c'est difficile, et on se dit que parfois ça va pas être simple plus tard, quoi. Bon, voilà, parce qu'on peut pas empêcher un mariage, sauf si on sent qu'il y a quelque chose de très fort sur les quatre piliers, un des quatre piliers, hein, en particulier la liberté. Hein, vous voyez, on peut pas, si on voit que c'est un mariage forcé, entre guillemets, ça c'est non, quoi. Enfin, on ne célébrera pas le mariage. Ça reste très exceptionnel.
Ça vous est déjà arrivé ?
Oui. Ça m'est arrivé, alors, dans une dimension, alors, pour le coup, assez, ça, très religieuse, en fait, puisque l'un et l'autre me disaient, nous, on est non-croyants, l'église, on n'en a rien à faire. Il y a beaucoup de demandes sociologiques de mariage, hein, encore. C'est-à-dire qu'on est catholique, et puis il y a le, et puis il y a la dimension de la robe de mariée, l'église, quoi. Il y a des moments où, des fois, même dans les rencontres, hein, je dis ça avec un peu d'humour, bah, je dis, bah, avec ce que vous me dites, je vais vous louer l'église, et puis ce sera très bien, vous ferez les photos à l'entrée et à la sortie, et puis on fera sonner les cloches pour la vidéo, et puis tout ira bien, voilà.
Laurent, on est ici chez vous, à Saint-Malo, pour parler de la préparation au mariage catholique, puisque vous êtes un couple qui accompagne de jeunes mariés. Est-ce que vous vous rappelez de votre mariage à vous ?
Moi, je me rappelle très bien. C'était le 5 septembre 1998 à Saint-Jouan-des-Guérets, juste à côté de Saint-Malo. Et voilà, c'est un jour très très présent dans mon esprit, et notamment la célébration où j'ai pleuré. Voilà, je me souviens très bien de ça.
Vous aviez eu, vous, une préparation au mariage catholique ?
Oui, absolument. Nous avions eu un dimanche qui était accompagné par des couples et par un prêtre.
J'en ai assez light, dont moi je ne garde pas un souvenir ultra mémorable. Il faut dire que j'étais jeune et un peu idiot, et donc j'y suis allé un peu avec des pieds de plomb.
Oui, tous les deux, on y allait avec des pieds de plomb, voilà. En disant, on va perdre une journée. On va perdre notre temps. Nous, on était déjà pratiquants, donc on se disait, qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre de plus ? Et au final, on est reparti quand même très enchantés, de façon, parce qu'en fait, on s'est posé tous les deux des questions qu'on ne s'était jamais posées avant.
Et vous sentez, vous, maintenant, que les couples que vous accompagnez vers le mariage, il y en a qui arrivent ici, chez vous, avec les mêmes pieds de plomb ?
Exactement. C'est pour ça que nous, cette année, c'était nous qui amenions la première rencontre avec tous les couples. Et on a choisi de mimer, de faire un sketch et de mimer un couple qui n'a vraiment pas envie d'y aller et qui essaye de s'inventer des, des excuses bidons pour pas y aller. Et ça a très bien marché parce que tout le monde a bien rigolé. Je pense que les gens se sentaient concernés directement.
Les hommes ont beaucoup ri. Donc moi, je suis persuadé que voilà, les futures épouses... entraînent leur futur mari plus que l'inverse dans une majorité de cas après.
Donc votre arme dans ces cas-là, c'est l'humour.
Ah oui, la dérision, absolument. Ouais, je pense que...
Quand moi j'ai accepté, c'est toujours pareil. Au démarrage, Jean-Claire m'a dit « on va maintenant à notre tour participer à la préparation au mariage ». Je n'étais pas forcément hyper enchanté, mais dans le deal, pour moi, c'était aussi de montrer qu'il n'y a pas que des cathos coincés sur Terre et que voilà, on peut faire des choses de façon drôle, sérieuse... et qu'on ait des gens tout à fait normaux.
Parmi les quatre piliers du mariage, est-ce qu'il y en a un que vous abordez plus en profondeur ?
Alors, cette année, on s'est partagé les piliers. Donc nous avions la liberté. Ça ressemblait à la vie de tous les jours.
C'est ça qui est important. Parce que nous avions choisi d'étayer notre explication sur la liberté par des expériences de notre quotidien.
Je rentre de ma semaine de travail, j'ai pas vu ma femme, mes copains m'invitent à aller prendre l'apéro. Est-ce que j'ai pensé à le dire à ma femme ? Non, bah j'y vais pas. Donc, ou alors je passe chez le fleuriste et je lui offre un bouquet de fleurs. Mais c'était voilà, ce genre d'exemple, parce que dans l'idée, c'était plutôt de donner des exemples concrets pour montrer que le mariage, c'est qu'un début. Si on veut que ça dure, faut que le quotidien soit organisé pour que ça dure.
Par exemple, l'anecdote qui était rigolote, qui a fait beaucoup rigoler, c'était en fait, j'ai arrêté d'acheter des vêtements pour Laurent parce que je me rendais compte que ça le vexait au possible. Et donc, je faisais vraiment une intrusion. C'est bête, c'est idiot, mais voilà. Fallait mieux que je lui laisse la liberté de choisir ses vêtements. Hein, voilà.
Et ça va, pas trop déçu de la manière dont il s'habille depuis ?
C'est-à-dire que maintenant, je lui dis que c'est moche.
Merci, Claire.
Aude, vous vous êtes mariée il y a 4 ans, vous avez suivi une préparation au mariage catholique. 4 ans après, quel souvenir vous en avez gardé de cette préparation-là ?
Honnêtement, pas grand-chose. C'était un long week-end de mai. On était avec 8 autres couples qui souhaitaient se marier comme nous. Et on était tous autour d'une table. Et il y avait des bonbons, il y avait des gâteaux, c'était festif. Et ça a duré 2 jours, je crois. Et c'était très long. De ce qui me semblait, moi j'avais plus l'impression d'être un cours de caté, un cours d'écouter en fait plus que de partager. J'ai une éducation qui est catholique, mais je ne suis pas catholique, je ne me sens pas croyante. Mon mari, lui, est croyant, donc c'est pour ça qu'on l'a fait, c'est pour ça qu'on s'est mariés à l'église. Mais moi, je ne me sens pas croyante, donc j'y suis allée aussi pour lui. J'ai pas traîné les pieds, j'y suis allée quand même. Mais j'ai pas eu l'impression d'y apprendre grand-chose, si ce n'est que c'était pour moi une sorte de cours de psychologie, un peu de bas étage. Voilà, où on nous demandait de nous définir, de définir notre couple, de donner des adjectifs à notre couple, à quel endroit on mettait Dieu dans tout ça. Ça sent que moi, bah, je le mettais nulle part, donc c'était un peu... Voilà, ça m'a pas servi à grand-chose. En fait, j'ai eu l'impression qu'on m'imposait un schéma type de ce que pouvait être le mariage, et que moi, mon mariage, c'est pas du tout ça. Moi, c'était me marier avec l'homme que j'aime. Je me souviens juste d'une réflexion, c'est vrai, où mon mari m'avait fait devant tout le monde une déclaration, voilà, et que la personne, un membre du couple, je sais plus si c'est la femme ou l'homme, lui avait dit il faut pas être trop fusionnel avec sa femme, c'est pas bon la fusion. voilà ce qui me reste de ça, et je m'étais dit mais de quoi elle se mêle. Voilà, et on est toujours fusionnel 4 ans après, ça a rien changé, mais je me souviens de ça. Voilà, c'était la réflexion que je m'étais faite. J'étais mais qui est, de quoi elle se mêle. Le couple, c'est pas une réunion, on se dit oh là là super, il y a du milieu. Non, le couple, c'est quelque chose de tous les jours. C'est des hauts, c'est des bas, c'est des épreuves, c'est beaucoup de choses. C'est pas une réunion avec de gugus qui va nous faire, enfin voilà, avoir une idée du couple et de la religion à l'intérieur du couple.
Mais l'amour, c'est du taf et ça se travaille. T'en es responsable du feu qu'on a allumé, responsable du feu qu'on doit garder tout au long des années, responsable du feu qu'on a allumé dans la cime ou dans l'abîme, c'est tout nous-mêmes. Quel obligé pour savoir rester aux aguets, car on change pas de prince quand on change de canapé, on change pas de prince quand on change de canapé.
Dans le couple, on prend conscience qu'il faut que la communication est essentielle, que...
Vous le saviez pas, ça ?
Si, mais malheureusement, enfin, je pense qu'au quotidien, le couple parle pas beaucoup.
Et vous pensez que ça peut rester longtemps, cet esprit que l'Église catholique essaie de vous inculquer, ça peut rester longtemps après dans la vie ?
Je pense que justement, ils nous donnent toutes les clés pour que oui, ça puisse marcher. Par exemple, ils nous ont dit qu'un couple devait se retrouver 1 heure par semaine, 1 jour par mois, 1 semaine par an, où le couple devait se retrouver. Et c'est quelque chose, ouais, ça, c'est un exercice que je vais essayer de mettre en place, surtout quand on a une vie de famille, en fait.
Et ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire par exemple aller au resto ? Ça veut dire regarder un film ? Ça veut dire
ou alors non,
ça
veut dire communiquer, c'est parler,
se ouais. parler, donc ouais, ouais. aller quelque part et parler pendant 1 heure.
Oh, se mettre à table et voilà, sans que les enfants interfèrent. Ne pas oublier que le ciment de la famille, c'est le couple, ouais.
Quand la vie est partie, il y a les factures, il y a les poubelles à descendre, il y a les chaussettes de monsieur qui sont jamais rangées, madame qui a toujours ses exigences, enfin bref, en tout cas. Et du coup, on n'aborde plus toujours les questions essentielles. Et on espère qu'ils se souviendront de leur préparation mariage sur ces questions existentielles pour leur vie conjugale. Et voilà, et que du coup, bah, des petites scories, des petites brouilles, des petites choses comme ça, bah, on se dit, allez, oui, bon, voilà, c'est vrai, il y a le pardon, il y a le dialogue, il y a des choses comme ça, et on s'y remet, on repart, c'est parti, quoi, voilà.
«
Nous sommes avec Sophie, chez Sophie, qui s'est mariée en 2011 après avoir suivi une préparation à l'église, une préparation catholique au mariage, et qui a divorcé 3 ans plus tard, en 2014, donc il n'y a pas très très longtemps. Dans cette préparation au mariage catholique, Sophie, on vous donne des clés pour ne pas divorcer, pour réussir son mariage. Qu'est-ce qui a fait que ces clés-là, elles ne vous ont pas servi, a priori, le jour où ça ne s'est plus bien passé?
Moi, la préparation, c'était plus une réflexion à ce que ça impliquait. C'est rassurant sur le moment. Et pourtant, quand il y a quelque chose qui ne va plus dans le couple, à ce moment-là, c'est très compliqué de retourner dans cette boîte à outils et de s'en servir finalement. Dans le cas de mon histoire, en fait, mon ex-mari a été infidèle. C'est assez étonnant comment, quand on s'aime vraiment très très fort, l'amour en une seconde se transforme en haine. Voilà, on repense à ce qui a été dit au moment de la préparation. On essaie, mais on n'y arrive pas. Ça monte très vite dans les tours. C'est compliqué. Donc c'est vrai que... Il y a peut-être aussi autre chose, c'est que finalement, on va à cette préparation. Aujourd'hui, moi, je suis une fille de divorcée. On a énormément, enfin tous hein, autour de nous, des divorces. Et du coup, on sait finalement, on se marie, mais est-ce qu'on croit encore à l'idée qu'on passera notre vie ensemble? C'est pas sûr. La préparation au mariage, en fait, on vous dit que malgré tout, faut rester ensemble. Et alors que finalement, je pense qu'aujourd'hui, quand il n'y a plus d'amour, pour X ou Y raison, je suis plus sûre qu'on soit capable de se forcer à rester ensemble.
Pendant la préparation au mariage, il y a un exercice qui consiste à écrire une lettre d'intention. Où justement, on fait une lettre qui est dans notre dossier religieux, où on réexplique pourquoi on se marie à l'église, les valeurs qui sont importantes pour nous dans notre couple, etc. Et donc cette lettre, en fait, ils nous disent que, par exemple, si dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il y a un conflit dans le couple, ils nous incitent à la relire ensemble et nous souvenir de pourquoi on s'est mariés, pourquoi on forme un couple aujourd'hui. Et donc voilà, ça peut permettre de réamener la discussion dans le couple et voilà.
Un des conseils que la préparation donne, c'est de relire la lettre d'intention en cas de difficulté dans le couple. Vous-même, Sophie, est-ce que vous l'avez relue, cette lettre?
Alors moi, en l'occurrence, non, je ne l'ai pas relue. Je viens même de l'acheter sans la relire, donc c'est marrant, le week-end dernier. Parce que il y avait cette histoire d'infidélité et que dans ces lettres-là, on s'était juré fidélité et que du coup, pour moi, ça, la lettre ne représentait plus rien. Ce dont je me souviens surtout, c'est que moi, j'avais pris le temps de l'écrire, j'y avais beaucoup réfléchi, et que lui, ça l'ennuyait au plus haut point, et qu'il avait récupéré une espèce de lettre sur Internet qu'il avait légèrement personnalisée. Disons que pour lui, c'était pas vraiment le plus important, quoi. Alors, je pense qu'il y a eu le pardon, et on a réessayé parce qu'on était mariés. Ça, c'était sûr. C'est-à-dire que le mariage, c'est un espèce de rempart à la séparation rapide, qui force à réessayer.
Alors moi, j'ai sélectionné la carte. Depuis que je t'ai rencontré, je ne suis plus le même. Ça, c'est pour toi, c'est pas pour vous.
Mais, vous parlez souvent. Ouais. On le dit pas, mais finalement, vous choisissez forcément des cartes qui vous parlent à tous les deux.
Non, mais parce que j'ai trouvé que ça... Que ça correspondait à ce que... c'est ce que je pense. Voilà, j'ai changé depuis que je suis avec Marianne. Pas d'un coup, mais clairement, c'est quelqu'un qui me fait évoluer et positivement. Enfin, j'ai changé en bien, évidemment. Hein,
Non, mais ça peut être un danger, effectivement, de dire que le mariage, je vais en épouser un ou une, et je veux le changer pour qu'il devienne un autre, quoi, enfin, selon mon choix. Donc c'est aussi tendancieux de changer. Faut bien que ça soit librement, encore une fois, et que ça soit pas une contrainte pour lui plaire qu'on soit une image et qu'on soit finalement pas vrai, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Donc ça a révélé votre personne d'une autre manière.
À contrario, il y a des points, et je sais qu'il y a des points de ma personnalité, des aspects de ma personnalité que Marianne aimerait bien voir changer, mais pour le coup que j'ai du mal à changer, ou alors que j'ai pas envie de changer. Donc c'est pas, voilà, si je change, c'est parce que je le veux bien. Enfin, c'est, voilà.
Ça me fait plaisir que tu changes, mais moi je tiendrai pas à ce que tu sois quelqu'un d'autre, parce que finalement,
ah non,
tu
suis tombée amoureuse de non, mais c'est...
Ouais. C'est subtil.
Oui, aussi. C'est
ouais.
C'est dosage.
Là, vous allez voir, le mariage, c'est un équilibre en fait en permanence pour tout, quoi, en fait. Ouais. C'est un peu ça.
Marianne, vous allez avoir 30 ans, quelques semaines après votre mariage. Est-ce que quand on a 30 ans, il y a des valeurs qui sont véhiculées par l'Église qui sont compliquées à mettre en place dans sa vie ?
Avant, effectivement, peut-être que la fécondité, cette valeur-là, c'était la femme, voilà, elle était mère avant tout. Et maintenant, cette valeur, elle évolue et l'Église évolue avec elle. Et on nous oblige... Enfin, qui dit mariage ne veut pas dire... 10 bébés dans la famille, enfin voilà, les mœurs évoluent et l'Église évolue et...
Personne vous dit pas de pilule et pas de préservatif.
Non. Non, pour moi l'Église est beaucoup plus moderne que ça. Là dans la préparation au mariage, il y en avait plus de la moitié, je crois, qui avait déjà un enfant, donc voilà, il s'adapte aussi à la vie d'aujourd'hui et... Je veux pas que ça devienne une contrainte, pour moi la religion c'est une aide, c'est un support, c'est une force plutôt qu'un frein, en fait. Donc, voilà.
La position de l'Église sur la contraception, d'abord, on ne juge jamais la personne. L'Église considère que la vie est donnée en abondance, et donc elle est contre la contraception. Donc voilà, ça c'est clair. Maintenant, chaque situation est différente, chaque personne est différente, chaque couple est différent, donc il faut d'abord qu'on écoute le couple, qu'on échange avec eux, on peut leur dire, bah voilà ce que dit l'Église, après chacun est renvoyé à sa conscience pour faire comme il va pouvoir, et puis nous on n'est pas là pour aller vérifier comment ça va fonctionner. Par contre, pour moi ce qui me paraît important aujourd'hui, hein, c'est d'échanger avec le couple sur le respect entre l'homme et la femme dans la sexualité. Hein, pour faire bref et un peu caricatural, l'homme est toujours prêt et la femme a toujours mal à la tête. Voilà. Les couples vous disent, c'est vrai, on se dit, bah oui, tiens, on n'en a jamais parlé. Voilà. Et ben, ça, c'est génial quand ils se disent, on n'en a jamais parlé, il faut qu'on en parle, il faut qu'on échange sur ça. Ben voilà. Vous savez, il y a ce livre-là, les femmes viennent de Vénus, les hommes de Mars, ou le contraire, je ne sais jamais. Et moi, je leur conseille dans la préparation d'ailleurs de regarder le DVD. C'est extraordinaire, ils passent une super soirée et ils découvrent, ah bah oui c'est vrai on est différents, ah bah c'est vrai tu réagis comme ça mais on n'en avait jamais parlé, mais ça m'énerve ça ta réaction, mais je comprends c'est parce que t'es une femme ou parce que ah bah oui les hommes ils réagissent toujours comme ça, vous voyez.
Plus ça que la contraception au final dans les conversations.
Ah oui, moi je dois dire que, alors peut-être que je suis mal à l'aise avec cette question-là parce que je vois bien que beaucoup de couples, même catholiques pratiquants, pratiquent la contraception. Il y a toutes les méthodes naturelles. Je suis pas sûr qu'on soit encore très au point sur une vraie présentation et une belle présentation des méthodes naturelles qui sont aussi bien proposées par l'Église que par les écolos. Hein, donc après ça, on n'a pas le monopole en la matière. Les couples qui les pratiquent, trouvent ça bon, trouvent ça bien. Voilà, maintenant c'est au couple d'en parler quoi, et de le dire, et il faut savoir bien en parler, et ça c'est très important parce que l'autre jour, avec un peu d'humour, un couple catho que je prépare au mariage me disait, bah oui, alors on nous a présenté les méthodes naturelles, mais le couple nous a dit qu'ils avaient 8 enfants, alors on se demande si ça marche quoi. Vous voyez, donc évidemment il faut qu'on soit malin aussi, enfin malin au bon sens du terme, intelligent de la relation interpersonnelle. Il faut pas être dans la négociation commerciale, mais on n'a rien à vendre, mais il faut savoir parler à ces jeunes couples d'aujourd'hui.
C'est un bel outil de communication pour l'Église aujourd'hui, cette préparation au mariage. Est-ce que sans elle, il y aurait encore moins de gens qui iraient à l'Église ?
Moi, ce qui m'apparaît, c'est que cette préparation au mariage, elle est mise en lien avec une formation continue qui est proposé aux couples qui viennent se marier dans les mois ou les années qui suivent directement leur mariage. Donc c'est une étape, parce que je pense que l'Église aimerait beaucoup que ces gens qui soient passés par l'Église pour se marier restent un peu affiliés à ces mouvements de foyer qui sont finalement pas très exigeants. C'est une rencontre une fois par mois, une fois tous les deux mois, et qui sont peut-être plus ludiques qu'aller à la messe, et qui permettent là encore de poursuivre la catéchèse.
Et ça fonctionne ?
Ça fonctionne assez bien. Hein. Ça fonctionne assez bien. Mais en fait, tout est une question, je dirais, de vraiment de culture et d'éducation. Il y a une étude qui a montré, je suppose qu'elle a été bien faite, que par exemple, dans les départements où l'implantation des collèges et des lycées et des écoles privées catholiques était la plus importante, les divorces étaient moins nombreux que dans la population lambda. Donc il y avait au moins 5 points en dessous du divorce normal. Donc ça veut dire qu'effectivement, quand on éduque les gens, enfin quand l'Église arrive à éduquer, eh bien elle arrive à faire des personnes qui ont un comportement qui est relativement conforme à leurs attentes.
Je pense qu'en fait, la préparation au mariage, ce à quoi ça sert, c'est de savoir si oui ou non on a vraiment envie de se marier. Ça, oui. Je pense qu'un couple qui n'est pas vraiment sûr de lui, après une semaine de préparation au mariage, je ne suis pas sûre qu'il ira. Mais après, est-ce qu'on peut se préparer à ce qui se passe après ? Est-ce qu'on peut se préparer à l'infidélité ? Est-ce qu'on peut se préparer à la stérilité ? Est-ce qu'on peut se préparer aux accidents de la vie ? Ça permet de se poser la question, est-ce qu'on s'aime suffisamment pour se marier ? Ça, oui. Mais ça permettra jamais de répondre à la question, est-ce qu'on sera capable de le faire ? Est-ce qu'on sera capable d'aller jusqu'au bout, plutôt, de la vie à deux
Ils sont prêts, là, ou pas ?
Ah, je pense, oui, ils cheminent. Ils cheminent.
Vous aviez l'air surpris qu'ils soient aussi rapides que ça ?
D'avoir tout préparé déjà, que la célébration soit si avancée dans le choix des textes, ouais. Des chants.
J'ai l'impression qu'ils ont hâte de se marier et de vivre après le mariage ensemble.
Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter pour la suite, à Marianne et Mathieu ?
Qu'ils n'oublient pas ce mariage devant Dieu. Parce que je pense que c'est leur passeport quoi, pour la vie future. Ouais. Mm.
Ben moi, c'est pareil. C'est au moment de votre célébration de mariage. Pensez à Dieu. Parce que c'est grâce à Dieu que vous êtes ensemble. Et comme tu dis, c'est le passeport. Ce sera le moyen de pour vous, pour tout votre avenir après, pour votre famille, pour tout. Pensez à Dieu. Oui. Parce qu'il est là pour vous unir. Et Dieu vous protégera après, par la suite. Pensez à lui.
C'était Mariage à l'église, se dire oui c'est toute une préparation, avec Marianne et Mathieu, Angélique et Jimmy, Aude, Sophie, les couples accompagnateurs Guy et Nathalie, Laurent et Claire, Sylvie et Bertrand, le père Nicolas Guillou et l'historienne Agnès Valk. Attachée d'émission Christine Bernard et Alison Sinard, productrice coordinatrice Irène Omelianenko, un documentaire de François Test et Elodie Font, pour Sur les Docks.